vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Et en ce mois de juillet 2022, dont le thème est « Entre deux mondes, il y avait la terre et le ciel », vient du romancier Olivier Norek, dans un roman que je viens de lire en pocket. Entre ces deux mondes s'étendait jadis, heureusement ça n'existe plus, s'étendait la jungle de Calais, un endroit en France où l'on peut tuer sans conséquence. Ensuite, eh bien, entre deux mondes, il y a aussi la mer. Et je parlerai de la mer avec « À fleur d'eau » de Rémy Huot aux éditions Le Mot et le Reste. Un parcours audacieux à pied de Saint-Malo, enlongeant toute la côte pour rallier l'île d'Ouessant, c'est-à-dire un périple exaltant de 800 kilomètres. Et puisque j'ai parlé de Saint-Malo, je parlerai aussi d'un troisième livre, un troisième roman, un polar. Je parlerai aussi du roman « Le dernier des écrivains » de Gwenaëlle Robert, qui est paru aux éditions Presse de la Cité. Une histoire qui mêle deux écrivains, Pierre Le Guélec, admirateur de Chateaubriand, oui, je parlerai de Chateaubriand, qui partit de là pour débarquer à Baltimore, échappant à la tourmente révolutionnaire et découvrant le Nouveau Monde. C'est bien à Saint-Malo que se trouve sa tombe, dans cette cité de granit qu'il aimait tant. Et puis, en quatrième position, j'ai retenu le roman historique de Luigi Cantamessa sur l'antique Axum et l'Odyssée du Grand Obélisque. Vous verrez que c'est absolument aux éditions Fabre, une diffusion en France grâce à Gilles Paris, que je remercie, car ce royaume d'Axum précédait celui d'Éthiopie, l'Éthiopie tant convoitée et qui est malheureusement toujours en guerre avec le Soudan à gauche et puis la Somalie à droite. Et puis, pour finir, en cinquième position, je parlerai d'un grand roman, La verticale du fleuve, de Clara Arnault, qui mêle un fleuve et une superbe montagne. Cela se passe au Honduras. C'est aux éditions Actes Sud, et je vous dirai dans pourquoi je parle de ce roman de Clara Arnault. Alors je reviens donc au premier, Entre deux mondes, de Olivier Norek, qui est un polar sensible et saisissant, qui se déroule dans un enfer, dans la jungle de Calais quand elle existait, mettant en scène bon nombre de personnages. En particulier Adam, un policier syrien, qui doit fuir son pays parce que il avait tendance un petit peu à se tourner vers Daesh. Et puis, comme il est marié à la très belle Nora et qu'ils ont une fille Maya, il s'arrange pour qu'eux partent déjà avant et il ira les rejoindre à Calais. Alors, un long voyage pour Nora et Maya, passant de Damas au Liban, puis Tripoli en Libye, et puis traverser de la mer en bateau, canoë-bateau, et l'Italie pour rejoindre Calais et peut-être l'Angleterre. Malheureusement, un drame va survenir. la petite Toussaint s'est refroidie, Toussaint trop, donc il risque de se faire remarquer, et le passeur et une femme, elles seront toutes les deux balancées dans la mer, donc elles vont mourir. Donc elles n'arriveront jamais à Calais. Mais il y a un témoin muet de cette funeste décision, ce que l'on découvre à la fin du roman, lorsque Adam parvient à Calais à la recherche de Nora et de Maya, mais en vain, il a beau montrer le portrait de l'une et de l'autre, mais personne ne l'a vu, ne les a vus. Et puis, il va protéger aussi, généreux, il va se mettre à protéger un jeune Soudanais en très mauvaise posture qui va s'attacher à lui, appelé Kilani, mais qui s'appelle en fait Eman. Eman, dont on a coupé la langue face à l'horreur dont a été victime sa famille. Cela se passe au Soudan du Sud. Et c'est lui, voilà, et on va en faire un guerrier muet, un guerrier muet, mais c'est lui qui, avec sa main, et qui va venir donc à Calais, et c'est lui qui, avec sa machette courbe, a pu tuer sans conséquence en France. Je vous laisse découvrir le pourquoi de la chose que Adam, son protecteur, ne comprend pas, une revanche qui lui semble injustifiée comme une trahison. Voilà. Donc, je vous laisserai avec ce roman de Entre deux mondes d'Olivier Norek que vous pouvez lire en pocket. Entre deux mondes se trouve la mer, en Bretagne, à Saint-Malo, avec le récit audacieux à fleur d'eau de Rémy Huot, qui vient d'être réédité aux éditions Le Mot et le Reste. Je parle réédité parce qu'il n'était plus disponible, tant il a du succès. C'est un exploit, mais c'est aussi une nouveauté. Un parcours à pied de Saint-Malo jusqu'à l'île d'Ouessant, c'est-à-dire 800 km de littoral armoricain. Et comme c'est un ornithologue formidable de formation, ornithologue, ce marcheur solitaire dialogue avec les oiseaux qu'il observe avec ses jumelles, à la fois les oiseaux locaux, mais aussi ceux qui viennent de très loin et qui s'arrêtent sur cette côte bretonne. Même lorsque le temps devient très éprouvant, c'est vraiment une passion qui le tient à cœur et ce qui fait qu'on voyage aussi avec à la recherche de ces oiseaux. Emporté par ce besoin intime de composer avec la mer, il raconte le passage des caps et la traversée des estrans, le défilement des rivages et l'enchaînement de ses nuits à la Belle Étoile, même s'il a une tente, mais quand il peut dormir à la Belle Étoile, il le fait, sinon, s'il pleut un peu, tout ça, il reste sa tente, tout tourné vers le grand large, cette nuit à la Belle Étoile, tout tourné vers le grand large. Du Cap Fréhel à la pointe de Perne, il explore jusqu'au bout le dur du granit et le néant des falaises. De la baie de Saint-Brieuc à la mer d'Iroise, il se laisse traverser par la constance de l'automne et le ressac de l'océan. Dans les embruns d'octobre, l'auteur se place à l'affût des pluies et des éclaircies. Et son regard à fleur d'eau, d'où le titre de ce récit, et son regard à fleur d'eau se tient prêt à saisir la moindre tonalité sauvage. Que sa marche solitaire au nord de la Bretagne donne à voir, je dirais même à regarder, car on a vraiment envie de regarder. « Je ne m'inquiète pas trop de ma piètre position, » dit-il à certains moments. « Ombre et lumière sont aussi discutables que richesse et pauvreté. Les chemins vont et viennent. Les cieux se font et se défont. Et si d'autres vents contraires se lèvent, ils offrent l'occasion d'éprouver l'irrésistible tentation de la liberté. » C'est bien le mot qui l'emporte, la liberté. « Je m'estime heureux de pouvoir faire de la Bretagne une limite de cette région du monde que j'aime à arpenter, même si cette terre n'est pas naturellement la mienne, car il vient de la montagne. L'éloignement des montagnes, les subtilités du climat, la légère dissonance dans le vent, l'avertissement des marées, en soi la vie sauvage dans ses grandes largeurs, tout de la péninsule armoricaine m'a donné envie de la parcourir. Lenteur après lenteur, morceau de côte après morceau de côte, et aussi loin que l'ouest se foule. Je m'arrête là dans cette description merveilleuse, mais c'est tout à fait un récit édifiant, comme je les aime, qui allie la marche, l'écriture et l'observation de la nature. Et j'étais heureux, je suis heureux de le partager avec vous. Voilà ce petit texte, mais grand texte. Voilà. Alors, comme je vous l'ai annoncé, le dernier des écrivains se déroule en grande partie à Saint-Malo, que Gwenaëlle Robert connaît très bien. Si, dans le précédent, Rémiot, dans son roman, part de Saint-Malo, il n'en parle pas beaucoup, alors que Gwenaëlle Robert connaît très bien Saint-Malo et fait une très belle description de Saint-Malo, aujourd'hui. Voilà. Qu'est-il arrivé à Pierre Le Guélec, le héros de cette histoire et nouveau lauréat du prix Nobel de littérature? C'est important, ça, hein ? Tout le monde n'est pas prix Nobel de littérature. Déposé à l'aéroport de Rennes, le matin du 8 décembre, il n'est jamais arrivé à Stockholm pour recevoir sa récompense, un prix, une somme d'argent conséquente. Heureusement, son éditeur local a pu envoyer un remplaçant pour lire son texte de remerciement. Il semble avoir disparu. Marie Rivalin, donc on ne fait pas trop de vagues, hein, pour qu'il puisse bien recevoir sa récompense, même s'il semble ne pas être allé à Stockholm. Son attaché Marie Rivalin, son attaché de presse qui lui est très très dévoué, est troublé par cette disparition et doit mener une enquête sans faire de vagues, contrainte de rester à Saint-Malo pour s'occuper de son chien jusqu'au retour hypothétique du romancier. Et elle nous entraîne dans un hôtel particulier, chargé d'histoire, en particulier celle des derniers Terre-Neuve, dont il est le descendant. Car il a bien été au Canada, ce Pierre le Gallec, il a bien été au Canada, laissant même des traces que vous découvrirez en lisant ce livre, ce roman. Et sur, donc, elle se déplace aussi sur les plages vantées de la cité de granit qu'elle aime vraiment beaucoup. Elle croise aussi la route, comme je l'ai dit, de Châteaubriant, partie d'ici pour Baltimore et découvrir le Nouveau Monde. Au cimetière, on peut y trouver sa tombe qu'elle nous présente. Voilà. Ce roman, dans la lignée des romans de Georges Simenon, car il y a une belle humanité dans la lignée des romans de Georges Simenon, Gwenaëlle Robert signe une intrigue captivante et mystérieuse dans la cité corsaire dont les remparts abritent de lourds secrets enfin révélés. Et l'on peut faire une pause musicale avec une musique de Camille Saint-Saëns que j'ai redécouvert tout au long de l'année écoulée, avec Renaud Capuçon, le merveilleux violoniste, et Bertrand Chamaillou au piano, dans la sonate numéro 1 de Camille Saint-Saëns, la première plage Allegro Agitato, une pure merveille que nous écoutons. Thank you. Voilà, pour vous souhaiter de bonnes vacances, je voulais vous faire entendre cette superbe musique interprétée par Renaud Capuçon et Bertrand Chamaillou. Alors après la mer, la montagne, avec Luigi Cantamessa, qui a consacré tout un roman historique sur l'antique Axum et l'Odyssée du grand obélisque aux éditions Fabre. Ce royaume, le royaume d'Axum, ce royaume sert de fondation à l'Éthiopie tant convoitée que borde à l'ouest le Soudan et puis à l'est la Somalie. Vous savez qu'il y a toujours des guerres encore aujourd'hui. D'où était le Soudan, d'où était originaire le jeune Kilani Eman, rencontré à Calais, entre deux mondes, dans le roman d'Olivier Norek. Alors, Luigi Cantamessa, c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Le titre exact, c'est « L'incroyable Odyssée du grand obélisque d'Axum ». Aux éditions Fabre, est diffusée en France par Gilles Paris, que je remercie, car il m'a fait parvenir ce grand livre, vraiment une merveille. Luigi Cantamessa est historien et philosophe. Passionné par l'histoire des religions et des idées, son engagement professionnel depuis 1963 dans différentes organisations internationales basées à Genève, l'a amené à voyager dans le monde entier. Depuis 1991, il arpente les hauts plateaux éthiopiens à la recherche d'un monde encore peu connu, celui de l'ancien royaume d'Axum, et de sa christianisation. Un ouvrage composé de cartes et de très très belles photos significatives qui raconte 2000 ans d'histoire et 200 tonnes de patrimoine universel transportés de l'Éthiopie à Rome puis retour en Éthiopie. Vous allez voir que ce n'était pas facile de soulever tout ce patrimoine, 200 tonnes. Vous vous rendez compte comment ils ont fait il y a plus de 2000 ans pour construire ces obélisques et ces stèles magnifiques que l'on a retrouvées, peut-être certaines cassées, mais on les a retrouvées. Dans le nord de l'Éthiopie, la partie subsaharienne du pays, une part importante du patrimoine de l'humanité gît sous terre, resté le même depuis plus de 2000 ans. Dans la zone archéologique, les grands obélisques, différents de ceux que l'on trouve en Égypte, mais magnifiquement décorés, peut-être encore plus beaux, marque les tombes royales, témoignage de croyance en l'au-delà. Ces monolithes, les plus grands jamais travaillés par la main de l'homme, c'est pas avec des machines, c'est par la main de l'homme, peuvent dépasser le poids de 500 tonnes. À les voir ainsi élégantes, on les croirait fines et élégantes, on les croirait légères. De cette grandeur passée, nous reste un nom, Axum. Berceau d'une mythologie millénaire associée aux légendes de la reine de Saba, j'espère que ça vous dit quelque chose, de l'Arche d'Alliance peut-être un peu moins, de l'antique Axum ne demeure que les majestueuses stèles funéraires qui furent érigées et les importants monuments liés à l'arrivée du christianisme dans le pays dès le début du IVe siècle. La ville devint ainsi le berceau de l'Église orthodoxe éthiopienne jusqu'à nos jours. Il me semble que je me souviens que d'Égypte, les églises d'Alexandrie, qui avaient été fondées par le premier évêque Marc, le lion d'Alexandrie, et bien que lorsque les musulmans étaient arrivés en prenant le pouvoir, et bien les chrétiens d'Alexandrie étaient partis en Éthiopie, dans le sud de l'Égypte, et puis gagnaient l'Éthiopie. Voilà. Ce sont des chrétiens, il y a encore dans les Coptes des chrétiens orthodoxes. Voilà, donc ce petit aparté de ma part. Un des obélisques haut de 24 mètres, trouvé brisé en 5 morceaux sur le sol, pesant près de 200 tonnes, fut transporté à Rome en 1937, sur ordre de Mussolini, qui voulait redorer le blason de l'Empire italien avec cet obélisque haut de 24 mètres. Mais je peux vous dire que, pour après moult péripéties, hein, parce que c'est avec des grues, avec des échafaudages qui existent aujourd'hui qu'on a pu ériger à la gloire du nouvel Empire romain, en face de l'ancien ministère des colonies, à proximité du Circo Massimo, que l'on a pu dresser, ériger cet obélisque, haut de 24 mètres et pesant plus de 200 tonnes. Vous vous rendez compte ? Alors, l'obélisque a été restitué, a retrouvé sa haute valeur symbolique et politique le 4 septembre 2008, exactement à l'endroit où il fut trouvé en 1935, mais il est redressé, hein, il a été redressé suite à des engagements pris par le gouvernement italien. Ce monument a rejoint sa place originale au milieu des champs de stèles d'Axum. Il y avait vraiment toute une cité là, avec ses stèles et avec ses obélisques. Il y avait des obélisques environ 6 ou 7 et des stèles 7 ou plus avec de très belles décorations elles aussi, moins hautes que les obélisques, mais c'est vraiment somptueux, un chef-d'œuvre. D'ailleurs, il y a un article, une préface de Jacques Lang à ce livre, L'incroyable Odyssée du grand obélisque d'Axum, parce que c'est vraiment étonnant, hein, et providentiel, je dirais, qu'on puisse aujourd'hui constater ces chefs-d'œuvre, lire, voir ces chefs-d'œuvre de l'humanité. Situé dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, ce royaume d'Axum s'étendait sur les deux rivages de la mer Rouge. Voilà, la mer Rouge. Du Tigré à l'Érythrée et une partie de l'actuel Yémen, mais c'était un peu plus au sud. C'était l'état le plus puissant entre l'Empire romain d'Orient et la Perse. Riche capitale caravanière, Axum constituait le centre des grandes routes commerciales, le carrefour de 3 continents, l'Afrique, l'Arabie et le monde gréco-romain, du 1er au 8e siècle après Jésus-Christ. C'est pourquoi à l'époque contemporaine, cette terre a été l'affrontement de gens divers, de tribus diverses, même avec, je l'ai dit, le Soudan à l'ouest et puis la Somalie à l'est. C'est une terre où il y a toujours des affrontements, malheureusement. je vous laisse découvrir à la suite de cette grande aventure, avec la ruée vers l'Afrique et l'expansionnisme impérial, ça c'était l'époque de l'Italie, mais après il y a eu le retour de l'Empire éthiopien avec les différents empereurs qui se sont succédés, et puis la mort du dernier empereur, dont la mort de cet empire, qui sont expliqués, vraiment commentés dans cet ouvrage fabuleux qui vient de paraître aux éditions Favre et qui ne coûte que 20 euros. Voilà. Il ne faut pas vous en priver car vous découvrirez beaucoup, beaucoup de choses que je ne peux dévoiler ici pour cette émission. Alors le cinquième livre, c'est « La verticale du fleuve » de Clara Arnault, qui est paru chez Actes Sud. Et c'est en lisant avec enthousiasme « Le bord du monde est vertical » de Simon Parco, un premier roman, aux éditions Le Mot et le Reste, que je viens de lire, mais en avant-première. Et c'est en lisant ce roman « Au bord du monde et vertical » que j'ai retrouvé le nom de Clara Arnault, que j'aime depuis ses premiers récits. Clara Arnault qui dit « Le plus grand bien sur le bord du monde et vertical » de Simon Parco, qui ne paraîtra que le 25 août 2022. Et donc, je vous en parlerai à la rentrée de septembre. En attendant, voici le dernier roman de Clara Arnault, « La verticale du fleuve », liant une superbe montagne et un grand fleuve. « La verticale du fleuve », c'est au Honduras que ça se déroule. Comme le dit Clara Arnault, en postface, c'est en pensant à deux femmes qui ont bien existé, Bertha et Mélissa. D'un côté, un assassinat politique, un corps retrouvé. De l'autre, une disparition suspecte, un corps évaporé. Deux tragédies apparemment sans rapport. Mais ces deux histoires de femmes et de montagnes, de femmes, ces deux histoires de femmes, de montagnes et de rivières, au Honduras, donc je l'ai dit, d'émancipation, ces deux histoires de femmes, de montagnes et de rivières, d'émancipation et de violence, m'ont profondément marqué à la fin de l'année 2016. Quelques mois plus tard, lorsque je me suis lancé dans ce projet d'écriture, j'ai cru m'affranchir du réel en faisant le choix du roman. À l'heure d'achever ce texte, il me faut pourtant reconnaître qu'il est peuplé par les fantômes de ces deux grandes femmes. Il leur est dédié. Et c'est, moi, je trouve, ce qui donne toute sa force, une grande force, à ce roman, à ce texte. Alors, au début, nous sommes à El Encanto, Amérique centrale. Un matin de mai 2012, Suyapa, c'est l'héroïne, Suyapa, une militante écologiste de la communauté Lenchua, des Indiens Lenchua, est retrouvée dans son lit, le corps criblé de balles. Sa mort brutale réunit ses trois filles, Indira et Louisa et Marla, dans le village de montagne qui les a vues naître, et que les deux aînés ont quitté depuis 10 ans et bien que de conditions modestes, elles sont parvenues à faire des études supérieures aux États-Unis. Et elles reviennent au pays. Pour elles, il ne fait aucun doute que le mobile est politique, car leur mère dérangée, elle a été réduite au silence. Un an après cet assassinat, l'ouverture du procès des meurtriers présumés, qui en fait sont des petites mains, cachant les grands meurtriers, coïncide, l'ouverture du procès coïncide avec le lancement de la construction d'un barrage hydroélectrique contre lequel Suyapa s'est longtemps battue, car elle craignait non seulement que cette rivière serait coupée de son élan, transformée, mais aussi l'écosystème. Un édifice monumental, admirablement bien décrit dans ce gros roman, car il va se faire ce grand barrage qui domestiquera le cours du Rio Lindo, c'est le nom de la rivière, qui devient fleuve, qui se jette dans la mer, fera de leur bourgade du bout du monde une pionnière en matière d'énergie renouvelable, mais altérera à jamais la terre de leurs ancêtres et son écosystème. C'est ça l'écosystème, qui sera dévié aussi. Indira, qui était biologiste, qui a fait une thèse sur les batraciens, va bien se rendre compte que ces batraciens, avant le barrage, avant, au-delà de la rivière et puis après le barrage, n'ont pas la même vie. Divisés et troublés par la mort de leur mère et cette question du barrage, ces trois filles vont peu à peu s'émanciper et vont voir disparaître le monde de leur enfance. Heureusement, Indira semble reprendre le flambeau. Elle va même se relancer parce que la mère avait développé une production de café, de caféier, mêlé au feuillage de cette montagne, chose que les autres ne voulaient pas faire parce que c'était trop difficile, mais c'est là que la mère, que Suyapa, a réussi à faire un café au goût formidable, qui fait que peu à peu, c'est elle, et les grands caféiers vont venir chercher son café à elle. Donc tout ça est bien expliqué dans ce grand roman. Donc Louisa, elle, qui avait fait aussi des études aux États-Unis, mais a le goût de la grande vie dans une ville, donc elle va s'éloigner peu à peu de ce barrage, de ce fond de vallée. Et Marla, qui est mariée avec un homme qui malheureusement va être mis en prison, a une délicieuse petite fille, Ludmilla, qui sera l'héritière de la grand-mère, parce que de temps en temps, c'est la grand-mère qui s'occupe de sa petite fille, de Ludmilla, et qui lui parle donc dans la langue des Indiens, des légendes et tout ça. Donc c'est elle, Ludmilla, qui sera héritière de toute cette culture ancienne. Et Marla, donc, va relever la tête et devenir cantinière, car elle aime faire la cuisine et elle le fait très bien. Donc, Voilà. Mettant en scène les enjeux politiques et les aléas écosystémiques d'une modernité qui se veut verte, Clara Arnault signe une épopée familiale et chorale envoûtante avec des ingénieurs venus du monde entier. Les meilleurs dans leur spécificité pour construire ce barrage hors norme. Et tout ça est vraiment très bien dit, raconté avec le nom des ingénieurs venus du Brésil ou d'ailleurs ou même du Japon, chacun faisant le travail pour lequel il a été sollicité, jusque les turbines. Vraiment, c'est un très 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 grand roman, un récit chargé de lyrisme et d'âpreté. Merci, merci vraiment à Clara Arnault pour ce grand roman plein d'humanité, voilà, que je voulais vous présenter. Et comme je crois qu'il me reste quelques minutes, j'ai reçu un livre, un petit livre là, qui n'est pas aussi important que le livre de Clara Arnault, La verticale du fleuve, acte sud, avec un bel oiseau dessus aussi, sur la couverture, comme L'incroyable odyssée du grand obélisque d'Axum de Luigi Cantamessa. Tout ça, c'était vraiment des grands, ce sont vraiment des grands livres. Celui-ci est un roman américain. Fulgurant, une magnifique surprise que j'ai reçue grâce aux éditions Zulma. Le personnage, l'écrivain, T.M. Rivas, est né en Californie en 1972. Photographe, il est aussi, jusqu'ici l'auteur d'un seul roman, Le serpent des blés. D'où le titre de ce livre, de ce roman, traduit de l'anglais par Lucien Dazé, une très belle traduction, s'appelle Le Serpent des Blés. Le Serpent des Blés, donc un coup de maître, une œuvre unique et fulgurante. Alors, je vous déballe un petit peu le sujet. Le serpent des blés, c'est un des personnages de ce livre. Il existe bien, le serpent des blés. On a une jeune Massé et sa mère. La jeune Massé qui s'intéresse aux insectes comme un peu comme de le roman de Clara Arnault, La verticale du fleuve. C'était le cas de l'une des filles, Indira, qui s'intéressait à la biologie et aux batraciens. Ici, on s'intéresse aux insectes. Donc, avec un livre, Les insectes, le guide des insectes sous le bras, la jeune Massé et sa mère partent en pique-nique sur les collines dorées de Feldon. Au beau milieu des herbes folles, surgit Mitchell. C'est aussi le troisième personnage. Un géant dégingandé, aux lunettes étincelantes sous le soleil, esprit libre et fantasque venu de New York pour étudier les serpents. Voilà, d'où le titre « Le serpent des blés », parce que dans les blés, il y a des serpents qui sont particulier, c'est ce que vous découvrirez avec ce livre. Mitchell est un vrai charmeur. Le voilà qui s'installe dans leur vie, qu'il va perturber. La jeune mère de Massé sera amoureuse de cet homme. Le serpent des blés nous emporte dans ces paysages américains, tout droit sortis des tableaux de Edward Hopper, avec une sensibilité et un laconisme, voilà, laconisme déchirant, digne de Carson McCullough ou de Raymond Carver. Voilà pourquoi je voulais vous présenter ce livre, ce petit livre, qui ne coûte que 15,90, irrésistible et envoûtant. Voilà. Eh bien, je vous souhaite aux uns et aux autres de passer de bonnes vacances, de lire à l'ombre du soleil, pour ne pas vous faire abattre par les rayons du soleil, et puis de vous retrouver en septembre en pleine forme, si vous le voulez bien. À bientôt, au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.